C'est Camille Magnard qui vient nous donner ce matin des nouvelles du monde. Bonjour Camille.
Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump lance sa guerre des étoiles. Il veut donner à l'armée américaine une force spatiale pour affirmer sa domination militaire sur le monde et bien au-delà.
Pas de répit pour les survivants du séisme de Lombok en Indonésie. La terre a de nouveau tremblé hier. Nous ferons le point sur la situation humanitaire dans ce journal avec Nadine Epstein.
Au sommaire également, la société Uber qui voit son modèle économique fragilisé par le salaire minimum que lui impose la ville de New York. Et en France, un aspirant étudiant sur cinq qui ne sait toujours pas où il fera sa rentrée en septembre. Retour sur les ratés estivaux de la plateforme Parcoursup. La planète ne suffit donc plus comme terrain de guerre pour l'administration Trump. Hier, c'est Mike Pence, le vice-président américain, qui annonçait le lancement d'un des projets les plus chers à Donald Trump, la création au sein de l'armée US d'une force spatiale, l'espace donc comme nouveau champ de bataille et d'affirmation des volontés de domination américaine. Grégory Phillips.
Devant un parterre de généraux réunis au Pentagone, le vice-président Mike Pence annonce donc la création, dans les deux ans qui viennent, et si le Congrès donne son accord, de la force spatiale des États-Unis. Il est temps maintenant d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de nos forces armées pour se préparer au prochain champ de bataille où les Américains les plus courageux seront capables d'affronter et de détruire une nouvelle génération de menaces qui pèsent sur notre peuple et notre nation. Jusqu'ici, les activités militaires spatiales étaient sous la responsabilité de l'armée de l'air, qui pourrait donc perdre cette prérogative. Le projet initié par le président Trump suscite des critiques. Hier soir sur MSNBC, l'ancien astronaute Mark Kelly parlait de décisions stupides. Le commandement spatial de l'US Air Force s'occupe déjà de ça. Sur la base de Peterson, dans le Colorado, près de 20 000 personnes travaillent dans ce secteur. Le vice-président a raison, il y a une menace, mais qui est gérée par l'armée de l'air. Ça n'a aucun sens d'ajouter un niveau supplémentaire de bureaucratie. Même le ministre de la Défense, le général Mattis, interrogé l'an passé sur ce projet, s'était montré plutôt réticent pour des raisons de budget. Pour créer cette Space Force, l'administration va devoir trouver 8 milliards de dollars pour les 5 prochaines années.
Voilà pour la guerre des étoiles, donc version Donald Trump, la guerre terrestre, cette fois dans ce qu'elle a de plus tragique au Yémen. Les Nations Unies demandent une enquête indépendante sur ces bombardements saoudiens qui ont frappé hier le nord du pays. Ils ont détruit en particulier un bus de 6 villes, au moins 43 personnes tuées, parmi lesquelles on dénombre 29 enfants qui rentraient de l'école. Pour la coalition arabe dirigée par Riyad qui a mené cette attaque, le bus en question devait transporter des combattants houthis. Il s'agit donc, nous expliquons, d'une frappe aérienne légitime.
La terre tremble toujours en Indonésie sur cette île très touristique de Lombok où le séisme de dimanche dernier a fait 319 morts.
Et des centaines de morts, oui, quelques 270 000 blessés également, des rescapés qui fuient ou qui survivent dans la peur de répliques comme celle d'hier, 6,2 d'intensité sur l'échelle ouverte de Richter, mais heureusement pas de nouvelles victimes. La situation sur place reste toutefois critique, Nadine Epstein.
Les zones les plus dévastées sont celles du nord de l'île de Lombok, là où se trouvait l'épicentre du tremblement de terre. La puissance du séisme et ses répliques dépassent ce que l'archipel indonésien a connu en secousse depuis 2004 et son gigantesque tsunami à Sumatra. Ce dernier séisme sur l'île de Lombok, le 7e tremblement de terre depuis 12 ans, est déjà considéré comme l'un des plus meurtriers, bien que l'ampleur de la catastrophe soit encore incertaine. Les routes vers l'est de l'île sont impraticables. Les équipes de secours craignent que sous les dizaines de milliers d'habitations, des lieux de travail et de culte qui se sont écroulés, de nombreuses personnes sont encore ensevelies. L'Agence nationale de gestion des catastrophes indonésiennes, la Croix-Rouge indonésienne et les autorités voient chaque jour les besoins augmenter. Il manque du personnel médical. Les gens aimeraient avoir de la nourriture, des médicaments, de l'eau, des médecins et des infirmières. Pas assez d'aide n'est fournie dans les campements de tentes installés rapidement. Des abris ont aussi été aménagés près des routes, dans des rizières. Sous la chaleur tropicale, les réfugiés recherchent l'eau propre de petites rivières. Le nombre de personnes déplacées dépasse les 270 000. Beaucoup souffrent de traumatismes psychologiques. Des témoins ont raconté leur choc, la peur. 15 secondes, tout bascule.
Nadine Epstein, c'est un très sérieux coup de frein pour la société Uber à New York. La municipalité a annoncé hier le gel pour une année des délivrances de permis VTC. Il faut dire qu'Uber y fait rouler à New York 83 000 de ses voitures avec chauffeur contre 13 500 seulement taxis jaunes officiels. Mais ce qui inquiète le plus la plateforme VTC, c'est qu'elle se retrouve obligée d'instaurer un salaire minimum pour ses conducteurs new-yorkais et ça remet en cause tout son modèle économique. économique, comme nous l'explique l'économiste Michel Ruimi.
Pour l'entreprise Uber, cela risque d'avoir une moindre demande et donc de moindres courses, de moindres commissions et donc une baisse du chiffre d'affaires. Alors déjà, elle était exclue de Turquie. Elle a, à Londres, l'avait, on va dire, rejetée puis l'avait reprise. Ça risque de se diffuser progressivement, l'instauration d'un salaire minimum, ce qui veut dire qu'après, ça peut vraiment bouger sur les résultats du groupe en général. Donc, faut pas oublier que cette activité est une activité très concurrentielle et du coup, on ira au moins cher et ça peut poser des problèmes à ce niveau-là.
Donc, il pourrait y avoir finalement presque une jurisprudence New York ?
Oui, on peut considérer parce que faut pas oublier que pour avoir un salaire décent, un chauffeur Uber doit travailler longuement, près de 60 heures, et dès lors qu'il y a un salaire minimum, il peut essayer, on va dire, d'avoir une vie de famille correcte pour un salaire relativement décent.
L'économiste Michel Ruimi de l'École supérieure de commerce de Paris Europe répondait aux questions de Lucas Caltritti.
Nous sommes à 3 semaines déjà, Camille Magnard, des premières rentrées universitaires et le dispositif Parcoursup confirme les inquiétudes de ses détracteurs.
La plateforme d'affectation des candidats aux études supérieures ne semble pas vraiment faire mieux pour le moment que son prédécesseur, APB. À date d'hier, 66 400 jeunes restaient sans aucune réponse positive sur leur choix d'orientation et 110 000, eux, sont en attente d'une réponse dans l'une des formations qu'ils ont demandé. En attendant la date limite pour les inscriptions au 27 toutes, les universités ont du mal, il faut bien le dire, à organiser la rentrée dans ce flou qui persiste. Gilles Roussel préside la CPU, la conférence des présidents d'université.
Il y a tout d'abord un certain nombre d'élèves qui ont fait des choix, mais qui ont indiqué qu'ils étaient en attente d'un autre choix dans nos établissements, et ça représente à peu près 30 à 40% du nombre d'étudiants qu'on attend dans nos licences, ce qui est quand même un taux assez important. Ces élèves attendant éventuellement une autre proposition, mais on est à une situation qui est un peu bloquée aujourd'hui. Et puis du point de vue des universités, avant les vacances, le nombre d'inscriptions était plus faible pour les premières années qu'il était habituellement, puisque la grande majorité des bacheliers s'étaient inscrits avant les vacances les années précédentes. Là, probablement qu'ils vont s'inscrire après les vacances, puisque la date limite d'inscription va être en fin du mois d'août pour la plupart des étudiants. Et donc, on espère que le retard qu'on avait avant les vacances sera comblé à la fin du mois d'août, ce qui nous permettra de savoir effectivement les effectifs qu'on aura. Mais ce qui peut poser vraiment plus de questions, c'est le nombre d'élèves qui sont en attente d'une proposition, qui reste de l'ordre d'une dizaine de milliers aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont avoir des propositions ? Est-ce qu'ils veulent venir à l'université ? Et le risque, c'est que ces élèves se retrouvent affectés à la rentrée et que on soit obligé d'augmenter le nombre de groupes et donc de s'organiser au dernier moment pour accueillir ces élèves sans affectation.
Et du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, on réfute ces ratés de Parcoursup. On rappelle que 591 852 étudiants pour le moment savent déjà où ils feront leur rentrée en septembre. C'est une bataille technologique acharnée qui s'ouvre entre la Californie et le Limousin. Une bataille pour développer le transport supersonique du futur, l'Hyperloop. Ce train dont on nous promet qu'il pourra transporter des personnes à 1000 km/h. Aux États-Unis, le milliardaire Elon Musk et sa firme Tesla mènent déjà des essais. Mais en France, et plus précisément donc en Haute-Vienne, une entreprise canadienne veut les concurrencer. Elle dépose aujourd'hui un permis de construire une rampe de test sur une ancienne voie ferrée, Elia Vergel.
Sur le papier, le concept est simple, un train qui roule dans un tube sous vide. Pas d'air à l'intérieur, pas de frottement et donc un véhicule plus rapide qu'un train à grande vitesse. 1000 km/h, c'est ça le projet fou de la société canadienne Transpod de Sébastien Gendron. Mais est-ce que c'est vraiment faisable un train qui roule à 1000 km/h en permanence ?
Si vous voulez rester en permanence autour de 1000 km/h, il faut que la ligne soit la plus droite possible. Après, vous pouvez vous permettre d'avoir des virages un petit peu plus serrés. Il faut réduire la vitesse. Même si en vitesse moyenne, vous êtes à 500 ou 600 km/h, c'est nettement mieux que ce qu'on a aujourd'hui.
Aujourd'hui, la vitesse moyenne des TGV les plus rapides est légèrement supérieure à 250 km par heure. Pourtant, même en allant bien plus vite, l'Hyperloop ne sera pas nécessairement plus brillant, assure Sébastien Gendron.
Dans un environnement à faible pression, le bruit se propage pas très bien. on sera sur des niveaux beaucoup, beaucoup plus faibles que le train, et je parle même pas de l'avion.
C'est à proximité de Limoges que la future piste sera installée. L'entreprise Transpod vise une première ligne commerciale pour 2030. Le projet est pour le moment financé à 100% par des investisseurs privés.
Élie Habergel, Météo France lève la vigilance orange partout sur le pays. Fin donc de la menace d'orage et inondation. Aujourd'hui, le temps sera plus apaisé, ensoleillé même malgré des pluies sur l'extrême nord-ouest. Température comprise entre 17 degrés ce matin sur Brest et 29 sur Nice. Le thermomètre ne devrait garder à peu près ses valeurs pendant toute la journée, Julie.
Merci Camille Manière. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30.